Les chiffres rappellent ceux d'époque du deuxième référendum. On a eu un sondage. On a eu un sondage de la souveraineté au Québec. C'est sorti ce matin dans la presse. Un sondage CROP qui a été fait auprès de 1000 répondants. Ce qu'il dit, c'est un sondage-là, c'est qu'il y a eu une énorme montée au sein des jeunes. 56% seraient favorables à une indépendance du Québec entre 18 et 34 ans. Ce qui retient l'attention également, c'est que 44% des répondants soutiendraient l'idée de l'indépendance du Québec. Donc 44%. On dit dans la presse que c'est des chiffres qui sont comparables à la période précédente, l'ancienne campagne référendaire de 1995.
OK. Ça a passé bien près, là, oui, donc ça le rappelle à quelques points de pourcentage.
Là, par contre, à tous les souverainistes qui nous écoutent, là, pour moi, c'est à prendre avec une pincette sel. Pourquoi? Parce que ce sondage-là, oui, il dit 44% des répondants sont pour la souveraineté. Mais si on se fie au dernier chiffre de QC 125 qui prend en compte tous les derniers sondages, on était plus autour de 36-37%.
Oui, en effet. On a même touché un 29% vers la fin de l'année 2024. Là. J'avais vérifié les chiffres parce que je vais les comparer avec ceux de l'Alberta que c'est à 30%
ouais, à l'heure actuelle. Exact. Donc, oui, c'est un sondage qui dit 44%, mais pour savoir si vraiment il y a une tendance, il va falloir attendre un deuxième sondage, forcément.
Clairement. Jacinthe, t'en penses quoi, toi? 56% des jeunes de 18 à 34 ans qui seraient en faveur de la souveraineté. Est-ce qu'on est en train de revenir, justement, à l'avant-plan avec cette option-là, en pleine guerre tarifaire avec les États-Unis puis en plein patriotisme canadien?
Bien, je note que les cours d'histoire à l'école, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques réformes et ça a changé la manière de présenter l'histoire. Mm-hmm. Je l'ai vécu, là. Moi, j'ai trois enfants qui sont à l'école et à des moments différents.
Moi aussi, j'en ai deux.
Et
je note
que ce qui est raconté dans l'histoire est plus fidèle à la réalité maintenant. Et ça fait beaucoup plus réagir les jeunes. Ça les fait beaucoup plus réfléchir aussi sur cette conquête britannique sur les plaines d'Abraham et tous les enjeux constitutionnels que le Québec a vécu. J'ai l'impression qu'on enseigne davantage avec plus de clarté et plus d'insistance toutes les nuances de notre histoire et ça fait réfléchir. Moi, en tout cas, j'ai trois jeunes qui, à plusieurs occasions dans le parcours scolaire, sont bien conscientisés à ces réalités-là. Ce qu'on notait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou il y a 20 ans, encore moins. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une bonne part de ça, nos jeunes qui se conscientisent. On dit dans les articles de journaux, là, ce matin, on dit que c'est les tarifs américains puis la guerre, c'est n'importe quoi. Je n'adhère pas à cette explication simpliste-là et circonstancielle.
En effet,
on n'a pas une génération qui se met à devenir souverainiste parce que depuis quelques mois, on se dit en guerre tarifaire avec les Américains. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus enraciné que ça. Et je soupçonne une part de nos cours d'histoire qui ont probablement, le programme a peut-être été révisé.
Ben écoute, j'ai 21 ans, ça fait pas 30 ans non plus que j'ai sorti.
C'est vrai,
du milieu du scolaire, puis oui, on a un cours en secondaire 4 uniquement sur l'histoire du Québec et du Canada. Puis
ce qu'il n'y avait pas avant dans le parcours.
Ah non, puis dans ce cours-là, pour moi qui est de loin le cours le plus intéressant de notre cursus au secondaire en termes d'histoire, on apprend toute la conquête britannique, l'ordre Durham, l'acte d'union, le manque de respect total, l'assimilation qu'on voulait faire de notre peuple. Plus loin que ça, on apprend même toute l'assimilation qu'on a voulu faire au peuple autochtone. Donc, on fait vraiment un portrait complet de notre Québec comment acquis. Puis forcément, si les jeunes sont face à ces faits historiques-là, parce que là, on parle pas de propagande, là, c'est purement des faits historiques, forcément, dès le plus jeune âge, ça peut créer un sentiment d'appartenance, de crime. Hey, on a tenté de nous assimiler, puis on est encore là. Fait que ça peut expliquer une montée de la souveraineté, forcément.
Ben oui, c'est intéressant d'avoir ton point de vue.
Exactement. Est-ce que, par contre, tu sais que ça fait pas propagande, mais est-ce qu'il y a des gens qui pourraient voir ça comme de la propagande? Je pose la question, là, parce
c'est clair qu'on va avoir
des auditeurs qui vont nous écrire ça.
Puis
honnêtement, je me dis, si on l'enseigne avec un certain angle, tu sais, parce que... Puis là, je reviens, moi, avec une expérience vécue personnellement. T'sais. Moi, mon prof d'histoire en secondaire 4, là, quand il parlait justement de la guerre des plaines d'Abraham, il mettait son drapeau du Québec sur le dos, puis il les appelait les hosties d'anglais. OK, tu comprends qu'il était souverainiste. Donc, moi, mon enseignement de l'histoire en secondaire 4, ça a été par un prof devant la classe qui disait « Les assassins anglais, ils ont essayé de nous conquérir, ils ont essayé de nous assimiler, ils ont essayé de faire en sorte qu'on parle pas français. Mais vous voyez, on parle encore français. » Puis là, tu sais, c'était quasiment de l'antisémite. Si vous voyez un anglais dans la rue, frappez-le. Là, on était sur le bord, là. Ben sur le bord. Fait que, est-ce que... on serait, parce que je sais que la question va être posée par les auditeurs, fait que j'aime mieux la poser moi-même. Est-ce qu'on serait devant les faits qu'on a des profs trop souverainistes en histoire?
Je pense pas que de décrire l'histoire d'un peuple, c'est d'inculquer quoi que ce soit. Les gens sont intelligents, sont capables d'écouter une histoire. Après ça, tu sais, tu peux être face à un professeur, même s'il y a des tendances souverainistes ou même s'il est complètement, il s'assume dans son souverainisme, là. Je pense qu'il y a des gens qui vont quand même assister au cours d'histoire et se dire, oui, très bien, on a été conquis. Oui, on est décolonisés. Oui, les Anglais avaient les entreprises.
Fait qu'il y a encore des Jeff Fortin qui est resté fédéraliste, même si ben, Serge Thibault en avant de la classe.
Je pense qu'il y en a qui, quand même, arrivent à la conclusion que c'est quand même une lutte d'une autre époque, puis passons à autre chose. Mais il y en a pour qui ça va susciter l'indignation, puis qui vont dire hey, il faut reprendre le contrôle. Il faut corriger l'issue de l'histoire.
Et maintenant, selon toi, est-ce que c'est ancré, ce 56 %-là?
Ouais.
Parce que, tu sais, si c'est ancré, puis moi, je suis le chef du PQ, là, j'ai, oh my God, là, j'ai mon terrain de jeu. Là,
ouais.
Là je parle à ces 18-34-là, puis on monte. On monte.
Ouais.
Est-ce que c'est ancré, selon toi, ou tu penses que c'est circonstanciel? Parce que, et là, je te répète des paroles que j'entends régulièrement dans la population. Attends, mais que tu commences à avoir ta maison, payer des impôts, puis tout tel kit, tu vas comprendre que tu ne seras plus souverainiste. Tu sais, j'entends souvent ça. Fait qu'autant j'haïs mes amis souverainistes qui me disent « t'as pas encore compris », autant je déteste cette personne qui dit ça à quelqu'un qui est souverainiste, parce que je trouve que c'est prendre les gens pour des imbéciles, d'un côté ou de l'autre.
Ouais.
T'sais, c'est que, t'as pas encore payé d'impôts. Quand tu vas payer des impôts, tu vas devenir un fédéraliste. Puis l'autre, c'est, ouais, mais là, c'est parce que t'as pas compris. Non, je suis intelligent. T'sais. Des deux bords, je suis intelligent. Donc, ben... est-ce que tu penses que c'est ancré, ce 50? Parce que si c'est ancré, là, PSPP, il se flatte les mains et il dit, OK, là, on s'en va vers la souveraineté, pas à peu près. Là.
Deux choses là-dessus. Premièrement, dans les sondages, ça dit que les 55 ans et plus, là, l'appui à la souveraineté chute drastiquement. Est-ce que plus on s'approche de notre pension de vieillesse du fédéral, moins on veut se séparer? Moi, j'ai ça en tête.
C'est un excellent
point. Parce que
point.
Ça a joué en 1995.
Le portefeuille va toujours jouer. On n'arrête pas de parler de richesse.
Et vous allez perdre vos pensions. Vous allez perdre vos pensions. On se l'est fait dire en 1994-95 et ça fait peur aux personnes qui allaient toucher leur pension ou dans ces générations-là qui se sentaient plus interpellées. À 20 ans puis à 30 ans, tu as l'impression que la pension est dans tellement de temps, est loin de toi. Alors, t'as pas conscience que finalement, la pension peut arriver vite. Donc, peut-être que ça peut chuter quand on se rapproche de la cinquantaine. Oui, c'est possible. En même temps, là, je pense que le Parti québécois mise déjà beaucoup sur les jeunes et j'en profite pour faire une parenthèse. Je pense que le Parti québécois comprend que ça pogne la souveraineté, l'idée de la souveraineté auprès des jeunes et dirige beaucoup son marketing politique autour des jeunes. Mais attention, les petites vidéos de TikTok où vous soufflez sur des chandelles en parlant... ça séduit pas les jeunes. Vous faites rire de vous. À tous les élus, là, pour de vrai, là. Arrêtez de faire vos cools. Vous êtes pas cool. J'en ai des jeunes à la maison. J'ai votre clientèle cible à la maison.
Ils rient de vous.
Ils rient de vous.
Moi aussi, ils rient d'eux autres.
Bon.
Hey,
vous ne l'avez pas pantoute, là, OK? Non, ça marche pas, vos petits jeux à essayer de faire vos jeunes, vous ne l'avez pas. Restez des adultes, restez fiers, restez solides. Puis adressez-vous à eux comme des personnes intelligentes parce que là, vous jouez un jeu, vous vous attribuez un rôle de comédien et ça fait de la très mauvaise comédie.
Non, en effet, tu as tellement raison. Puis en même temps, là, moi, l'autre pendant que je vois au niveau du PQ, que je leur dirais « attention », c'est que je trouve que parce que les jeunes sont là sur la souveraineté et qu'on a souvent associé le vote jeunesse à Québec solidaire, on se tourne de plus en plus vers Québec solidaire.
Ouais.
Et ça, pour moi, c'est une grave erreur que le PQ fait. PQ n'a pas allé à gauche comme ça. Parce que là, on a 56 % de souverainistes, mais on avait plus de 40 % qui ont des idées de droite chez les jeunes.
T'as raison. T'as raison.
Là, on est en train de faire une mauvaise association du côté du PQ.
Et si tu veux séduire l'électorat de 40 ans et plus, même de 30 ans et plus, mais de 40 ans et plus, là, parle d'économie.
Exactement.
Là, va-t'en au centre si au moins tu veux pas aller à droite. Oui.
Donc là, je trouve que le PQ, et c'est une analyse que je fais parce que je regarde comment le PQ se comporte à l'heure actuelle. Et tout à l'heure, je vais vous faire jouer l'extrait justement du débat. Ben, je vais le faire jouer tout de suite. L'extrait du débat d'hier sur la souveraineté entre Alex Boissonneau et Éric Duhaime. Le PQ s'en va dans une traque qu'ils ont déjà joué puis qu'ils ont perdu. Écoute ça.
Monsieur Boissonneau, vous dites que vous voulez avoir le momentum, prendre le pouvoir, puis votre chef est obsédé par tenir un référendum aussitôt qu'il est élu. Là, les gens sont capables de faire un plus un. Là. On est présentement dans une guerre commerciale historique avec nos voisins du Sud. C'est la dernière chose dont on a besoin, c'est de chicaner avec les autres provinces. On est dans la région où il y a le plus grand nombre de travailleurs per capita qui dépendent du commerce avec l'étranger. C'est la dernière chose qu'on a besoin, c'est
Monsieur
votre obsession
Duhaime,
référendaire.
Duhaime,
puis vous l'avez
caché,
je vais me
permettre
Monsieur
de répondre,
dans la campagne.
Si vous me permettez de répondre, on a essayé la troisième voie de la coalition Avenir Québec pendant presque 8 ans à quémander tout et rien à Ottawa dans le contexte des négociations commerciales, que ce soit l'ACEUM ou que ce soit ce qui se passe avec les États-Unis. Nous, on croit qu'on a besoin d'un gouvernement fort pour représenter les intérêts des Québécois. Dans le cadre de cette élection-ci, on pense à un gouvernement de remplacement de la CAQ. Donc, les gens comprennent bien qu'ils doivent se trouver un député qui sera bon
Donc,
pour les citoyens.
Donc, vous allez ralentir votre chef sur son obsession référendaire. Que... Vous allez dire à votre chef de ne pas faire le référendum dans le premier mandat. C'est ce que je comprends
ça,
de vos propos, M. Boissonneau.
Il y a une discussion à avoir sur le référendum, sur la souveraineté, mais la question aujourd'hui, c'est de savoir qui est là pour les bonnes raisons, pour représenter les...
Dans le cadre de cette élection-là, on parle d'un gouvernement de remplacement. C'est drôle, je sens que ça va arriver, ça, en automne 2026, de la bouche de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ouais, hein? Oui, on est...
Le référendum dans le premier mandat, là, je sens qu'on retourne jouer dans le jeu de Pauline Marois. Là.
Ouais.
On va commencer par remplacer la CAQ.
Ouais.
On va refaire les finances publiques. On va ci, on va ça. Et lorsqu'on aura les conditions gagnantes... On fera le référendum. C'est une vieille cassette, ça, Jean-Saint-Anne.
C'est une vieille cassette, mais on ne peut pas leur reprocher. Mais ils vont être pognés dans leur paradoxe parce que c'est vrai que Paul Saint-Pierre Plamondon a toujours dit qu'il ferait la souveraineté dans un premier mandat, il me semble.
Ben oui, il l'a toujours dit. Il l'a dit 3-4 fois sur nos ondes ici le matin.
C'est ça. Mais là, en même temps, c'est vrai que tu ne peux pas brûler le troisième référendum. C'est vrai que ça prend les conditions gagnantes. Alors, il va être pris dans son propre paradoxe.
Ouais.
C'était un beau segment du débat hier de voir ça parce que tu voyais un Alex Boissonneau qui reculait presque sur la question référendaire et c'est le point faible. C'est le point faible du Parti québécois. C'est sûr que là, il a essayé de ramener ça à... Ben là, parlons d'Arthabasca, laissons faire. Là, on n'est pas en élection provinciale et générale, mais c'est sûr que c'était un bon chose. Mais sur la souveraineté, il y a la candidate de Québec solidaire qui m'a fait bien rigoler aussi parce qu'elle a été questionnée sur la souveraineté.
Elle n'est pas pour la souveraineté.
Ben là, hein, elle dit...
As-tu bégayé?
Quand il a été question de souveraineté, elle a dit, nous, dans le fond, la souveraineté, c'est plus un moyen pour arriver
à nos fins.
Puis c'est sûr que si on réussit à faire... C'est sûr qu'en faisant un pays, un pays.
oui,
elle a dit, si on fait un pays, c'est vrai, c'est un pays. J'ai dit, tabarouette, ma fille, si t'as pas compris encore que la souveraineté, c'est de faire un pays. c'est clair que, en fait, j'ai trouvé que c'était délicieux comme moment parce que ça campait réellement où se trouve Québec solidaire par rapport à la souveraineté.
Oui.
C'est vraiment... d'ouvrir la porte aux souverainistes en disant « Oui, on est souverainiste, mais c'est un moyen pour arriver à un État communiste ou socialiste ou d'extrême-gauche. »
Québec solidaire est un parti d'extrême-gauche.
Ouais.
Et c'est ce qui va toujours primer avant la souveraineté.
Ben oui, et au point tel qu'on a des candidats qui sont pas sûrs que la souveraineté, ça nous confère le statut de pays.
Exactement, ça, t'as
elle
tellement
Elle a dit
raison.
Le mot pays, puis là, elle était plus sûre, peut-être pas jusque-là. Ah oui, c'est vrai que c'est jusque-là.
Exactement, mais le PQ présentement, autant, puis c'est toi-même qui l'as dit sur nos ondes, puis tu l'as dit depuis qu'on fait de la radio ensemble cet été, autant Paul Saint-Pierre Plamondon, on le trouvait, très rigoureux dans son approche, autant il est en train de se perdre dans celle-là. Il est en train de redevenir le vieux PQ. On va se coller ses idéaux de gauche.
Ouais.
On va essayer d'attirer les jeunes avec les idéaux de gauche.
Ouais.
Comme si, soudainement, la machine péquiste l'avait avalé.
Bien, tu sais, d'ouvrir la porte à une Mélissa Généreux qui était candidate avec Québec solidaire, oui, à une Mme Gentilcœur qui est extrêmement à gauche. Je veux dire, Mme Gentilcœur, tu l'écoutes parler.
Nadia Poirier, qui était celle qui la concurrençait dans Terrebonne pour Québec solidaire.
Ben oui.
Oui, puis d'ailleurs, Mme Gentilcœur, t'auras remarqué, Mme Gentilcœur a tout de suite sorti quand Alex Boissonneau, il est juste de centre-droit. Elle a tout de suite sorti pour se dire « je suis de centre-gauche ».
Ben oui. Ben oui.
Fait que déjà là, à l'interne, on sait qu'il y a un combat, là.
On est-tu face à une coalition péquiste, gauchiste, droitiste? Ouais. Je le sais pas.
Puis
mais
Catherine
non,
Gentilcœur est une ancienne directrice du PQ.
Oui.
Donc, elle a énormément d'influence à l'interne.
Exactement.
C'est pas juste une petite députée
non,
qui vient d'arriver.
Tu
là,
fais bien de le mentionner.
Que Paul Saint-Pierre Plamondon ben oui, a fait « Ah, oh, tiens, je vais faire un petit cadeau à Catherine Gentilcœur. Je vais la mettre à Terrebonne. Et donc, ben gentil, je suis allé souper avec elle.
Ouais. »
Non, 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 c'est une ancienne directrice. C'est lui-même qui l'a placée là, justement, pour avoir une femme de force, de tête au PQ, parce que c'est un boys club. Mais là, la femme de tête, elle sorvait contre le boys club à peu près.
Oui, oui, elle fait tourner à gauche toute la gang. Vous allez tourner à gauche, c'est là qu'on s'en va. Mais il y a une autre chose aussi en lien avec ça, le virage à gauche du PQ. Dans le fameux sondage CROP que la presse nous dévoile ce matin, là, où la souveraineté, l'appui à la souveraineté est fort chez les jeunes, il y a aussi une démarcation entre la région de Montréal, la région de Québec et les régions du Québec. Et si la région de Montréal, l'appui à la souveraineté est plus faible que dans la région de Québec. Et dans la région de Québec, c'est plus faible que dans les régions du Québec. Alors, ding, 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 PQ, allumez vos lumières. Ouais, là, branchez-vous sur les régions du Québec.
Ben oui.
Dans vos orientations.
Ben
parce
oui,
que en ce moment, vos appuis forts sont dans les régions. Et à Québec, et beaucoup moins à Montréal.
Ouais.
Arrêtez d'avoir des perspectives montréalaises pour le Québec.
En effet.
Vos appuis, si vous voulez qu'ils montent, ils sont déjà forts. Vos assises sont en région. Qu'est-ce qu'ils aiment, les Québécois? C'est leur quatre roues, c'est leur bateau, c'est leur skidoo, c'est leur grand terrain, c'est leur maison unifamiliale.
Non, non, t'as raison.
C'est l'étalement urbain, c'est la vie de banlieue. Ouais. C'est ça, les régions.
Puis là, j'allais le continuer en termes politiques, moi, de mon côté, mais ding, 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 allumé, QS faisait rien dans les régions comme score.
Ouais.
Fait que si tu te colles à QS, ouf.
C'est ça.
Tu sais, quand on parle, je termine là-dessus, quand on parle de Mélissa Généreux, là, la candidate vedette de QS qui arrivera au PQ, elle a quand même bien perdu.
Ben oui.
Fait que pourquoi c'est une candidate vedette, ça a perdu?
Effectivement, effectivement.
T'sais, c'est pas comme si Gabriel Nadeau-Dubois disait « je m'en vais au PQ ». OK, là, on parle de l'ancien co-porte-parole, le candidat vedette de QS, l'homme qui a mené le combat des carrés rouges.
Ouais.
Là, on comprend que c'est quelque chose d'important. Mais Mélissa Généreux, là, avant, tu sais... Moi qui suis la politique activement, je l'avais oublié.
Oui, mais elle s'est fait quand même beaucoup connaître parce que c'est une médecin en santé publique.
En effet.
Elle a commenté énormément dans les médias. C'est un visage médiatique connu qui a commenté énormément, qui a fait des enquêtes sur toutes sortes d'enjeux liés aux jeunes, au confinement.
Mm-hmm.
Donc, elle s'est fait quand même connaître de ce côté-là. Alors, je pense que c'est ce qui lui confère le titre de candidate vedette, mais en même temps, tu as bien raison, sur le plan politique, ça reste une candidate qui s'est présentée une fois aux élections provinciales et qui a perdu.
Exactement. Un auditeur nous écrit « J'ai l'impression qu'on joue dans le film du jour de la marmotte ou retour vers le futur. Toujours les mêmes rengaines, bravo. »
Ouais,
au Québec.
Ben oui, hein.
C'est vrai, parce que là, le moment radio qu'on vient de faire, on aurait pu le faire en 2004, au moment où Pauline Marois avait pris le pouvoir.
Ben oui, ben oui.
On est 21 ans plus tard.
Ouais.
On est dans l'immobilier, finalement. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas de pompe et d'acerbe.
C'est ça. C'est assez décourageant de trouver l'issue de ça, mais je pense que au moins, on en parle. Au moins, c'est plus un enjeu qu'on a enterré sous le tapis. Ça veut dire, tu sais, ce sondage-là révèle qu'il y a encore des préoccupations chez nos jeunes. Puis, ben, si ça peut les intéresser à la politique,
clairement,
c'est déjà bon.
Yes. Une petite dernière, Mathias?
Oui, je termine en rafale avec deux nouvelles. Le premier ministre Mark Carney sera de passage à Trenton, en Ontario, pour faire une annonce concernant les Forces armées canadiennes. On connaît pas ça va être quoi l'annonce. On sait